Alors nous reprenons notre étude. Nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Dimanche dernier, j'avais prêché à partir de ce texte de Jean le Baptiste qui nous exhortait à tracer, faire des chemins droits pour le Seigneur. L'idée pour nous était de nous donner une piste simple de comment est-ce que nous nous préparions à recevoir le Messie. Faire un sentier droit, c'est entrer dans la véritable lumière de Dieu, celle qui rend toutes les choses simples au lieu de complexes, évidentes au lieu de troubles, claires au lieu d'obscures. Ainsi, un chemin s'illumine sous nos pas et on sait où aller. Je ne veux pas dire que c'est facile. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que toutes les relations humaines que nous avons, si elles pouvaient être simples, que ce serait bien agréable, bien vivant. Je suis certain qu'aucun d'entre nous ne se réjouit de vivre des relations où il faut décrypter ce qui est dit, deviner ce qui n'a pas été dit, anticiper ce qui pourrait arriver, bref, marcher sur des œufs constamment avec les autres. Nous soupirons après des relations de confiance, de bienveillance, qui nous sécurisent, voire même qui nous libèrent de notre peur d'être nous-mêmes. Alors nous pourrions tous nous regarder du coin de l'œil dans notre communauté, ou nous jeter des regards intrigués pendant le repas de famille en pensant, et si c'était possible, que tous ensemble nous marchions à même pas vers cette lumière, et si nous travaillions de concert à nous aider à mieux nous parler, à mieux nous écouter, à penser plus juste, à ressentir plus vrai comme Jésus. Mais voilà, on a besoin de quelqu'un qui fasse le premier pas. Qui ? Bien avant de vouloir plaire à Jésus, avant de planter nos racines dans la source de vie qui coule de lui pour porter un fruit pour les autres, je vais vous inviter à contempler celui qui fait le premier pas. On va faire deux lectures ce matin. La première sera dans Ésaïe 42. Ésaïe 42. La deuxième sera dans Jean 13. Ésaïe 42. C'est le premier poème du serviteur souffrant, pour ceux qui connaissent. Avant de lire la parole, à prier. Seigneur, nous nous plongeons dans les saintes écritures, forgées, façonnées, inspirées par le Saint-Esprit, transmises par tes prophètes. Elles nous sont parvenues parce que tu les as conservées, Seigneur, et nous les recevons avec reconnaissance, humilité et réjouissance. Et nous voulons les lire, conduits par toi encore, pour qu'elles nous transforment, nous illuminent, nous éclairent et nous réjouissent, et nous révèlent ton nom. Amen. Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main et j'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il libère les peuples selon le droit que j'instaure. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. On n'entendra pas non plus sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau qui est déjà plié. Il n'éteindra pas la lampe qui faiblit. Mais il libérera réellement selon le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas. Il ne se laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur l'ensemble du monde. et que les populations lointaines entendent son enseignement. Celui qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses populations et qui anime ses habitants, Dieu, le Seigneur, déclare à celui qu'il a choisi, « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon alliance envers le peuple, la lumière du monde. Tu rendras la vue aux aveugles. Tu feras sortir des prisonniers de leurs cachots. Tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans l'obscurité. » La première lecture. Deuxième lecture, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. On va lire juste les versets 1 à 11. C'était avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter le monde et d'aller auprès du Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'idée de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et que lui-même était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Il se lève de table et ôte son vêtement. Il prend une serviette dont il s'entoure la taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arrive à Simon-Pierre qui lui demande « C'est toi, Seigneur, qui me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus continue « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne partageras rien avec moi. » Alors Simon-Pierre réplique « Mais alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête !» Jésus ajoute « La personne qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car elle est propre. Et vous êtes purs. Ben » Non, pas tous cependant. En effet, Jésus savait que celui qui allait le livrer était là, c'est pourquoi il a dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le premier texte qu'on a lu vient du rouleau ancien du prophète Ésaïe. C'est le premier poème d'une série de quatre qu'on appelle les Cantiques du serviteur souffrant, qui annonce le Messie en fait. Et le Dieu d'Israël semble ravi. Il a trouvé le serviteur qui va ramener le peuple et restaurer le pays dans sa lumière, dans son règne. Et le pays part en vrille, autant le dire franchement. Alors, quel est le profil de ce leader qui va ramener le peuple vers la lumière et qui va même étendre le règne et l'influence de Dieu par toute la terre? Un homme avec une poigne de fer, une résolution implacable, une autorité indiscutable? Quelqu'un qui n'hésitera pas à sanctionner, qui saura se faire craindre? Eh bien, non. Dieu a choisi un homme d'une grande douceur. Dieu a choisi quelqu'un qui ne crie pas. Quelqu'un qui n'élèvera pas la voix. Quelqu'un dont on n'entendra pas la voix dans les rues. Quelqu'un qui, quand il voit un roseau qui est plié, vous savez, vous prenez les canisses, là, les sagnes. Si c'est cassé une fois, c'est foutu. Vous ne pouvez plus remettre le truc, quoi. C'est bon à être coupé et jeté au feu, dira-t-on. Mais lui, non. Il ne coupe pas. Petite lampe qui vacille, il ne l'éteint pas. Il est doux. Le leader, le meneur que Dieu a choisi pour ramener ce peuple indocile à sa lumière, la première qualité, c'est qu'il est doux. Okay. Deuxième qualité, c'est qu'il est d'une persévérance absolument inébranlable. Il ne se lasse pas. Il ne baisse jamais les bras. Il ne renonce jamais et il ne renoncera pas jusqu'à ce que l'influence, le règne du Dieu qu'il envoie couvre toutes les nations. Ben, mon vieux, s'il faut qu'il rassemble toutes les nations par sa douceur, vaut mieux qu'il soit hyper persévérant, non? Un chef qui ne crie pas, qui ne hausse pas le ton pour se faire craindre ou respecter, un chef qui n'est pas élitiste, hein, qui prend soin de ce qui est faible, de ce qui est brisé, blessé, de ce qui se meurt. Franchement, on est bien loti. Dieu a plutôt choisi quelqu'un de bon, de bienveillant pour nous. En même temps, on se demande vraiment comment il va se faire respecter. Nous ne connaissons que des chefs violents qui nous contraignent, qui utilisent des 49-3 ou qui envoient la gendarmerie ou ce genre de choses. Depuis quand n'avons-nous pas eu un responsable, un leader, un dirigeant, un chef qu'on aime? En fait, on a même dissocié ces deux choses. Aimer quelqu'un et avoir un bon responsable, un bon chef, ce ne sont pas des choses qu'on associe. On s'attend pas, on n'espère pas pouvoir voter pour quelqu'un qu'on aime. Dans un autre monde, peut-être. Là, Dieu, il met en place quelqu'un de doux, de juste et d'une persévérance sans faille. Est-ce qu'il va restaurer une justice, le règne de Dieu? Le règne qu'il exerce vient directement de Dieu, celui que Dieu veut mettre en place. Quand il va venir, l'injustice deviendra choquante. L'injustice deviendra impensable, honteuse même. Alors qu'aujourd'hui, on apprend une affaire, bon ben ça vient alimenter notre cynisme naturel, on ricane, et puis on est blasé de toute façon. Après tout, c'est comme ça que va le monde. Voire même presque, on est tenté de faire pareil, puisque après tout, tout le monde le fait. Donc un chef juste, un chef persévérant, un chef doux. Il va persévérer, travailler sans jamais rien abandonner, et il va réussir. En tout cas, c'est ce que disent les Écritures, à ramener le monde à la lumière du Christ, de Dieu. Tout en pratiquant la douceur. La douceur. Alors que nous, je pense qu'au bout d'un moment, on va dire, il faut mettre un taquet là, derrière l'oreille, et puis dire, tu ne l'as pas volé celle-là. Mais lui, non. Méthode douce jusqu'au bout. On redresse le roseau brisé, on protège la flamme qui vacille, on prend soin des faibles. Il y aura une endurance inébranlable, des poutrelles d'acier coulées dans du béton armé, soutenues par l'Esprit de Dieu. Rien ne pourra le décourager, le détourner, le dissuader, le lasser de poursuivre sa mission jusqu'à ce que toutes les nations du monde soient au bénéfice de son règne. Ça, c'est un bon chef, un boss. Douceur, patience, persévérance, justice. Et alors, dimanche dernier, Guillaume qui n'est pas là, mais il avait rappelé cette promesse qui a été faite à Abraham, « Je te donnerai une patrie, un pays promis, d'accord? Et puis, Guillaume a eu cette expression intéressante, mais que j'aurais jamais eue, et qui m'a fait cogiter. Il a dit, nous, notre pays promis, c'est Jésus. Alors, moi, je n'aurais pas dit que Jésus est un pays. J'aurais dit, oui, nouveau ciel, nouvelle terre, c'est ça qui nous est promis. Mais lui, il avait posé l'objet de la promesse, c'est Jésus. Et quelque part, ça me paraissait bizarre de présenter Jésus comme un pays. Et d'un autre côté, ça me semblait étrangement vrai. Et pour cause, je ne suis pas sûr que la nouvelle création soit radicalement différente de celle que nous connaissions aujourd'hui, plutôt que notre regard sur la nouvelle création sera bouleversé. Mais ce qui est sûr, c'est que la présence de Jésus au milieu de cette création, quand je dis présence, ce n'est pas une présence spirituelle, je parle d'une présence physique. Christ qui vient à nouveau régner au milieu de nous bouleversera notre existence. Donc c'est bien lui l'objet premier de notre espérance et de notre promesse, sa présence au milieu de nous. Nous voulons qu'il règne. Nous n'en voulons pas d'autre qui soit chef. Nous voulons le voir régner parce que nous savons que sa façon de régner à lui ne peut produire qu'une source de joie immense en nous. Alors oui, Maranatha, viens Seigneur. Mais on ne s'arrête pas là. Une deuxième lecture qu'on a faite ce matin dans l'évangile de Jean. Et pour moi, la lecture que j'ai choisie de Jésus qui lave les pieds des disciples, c'est l'illustration de celui que Dieu a choisi, qui est doux, qui est persévérant et qui est juste. En quoi se manifeste un chef doux, persévérant et juste? Mais je vous invite à contempler avec moi Jésus qui lave les pieds des disciples. Alors dans ce qu'on a lu d'abord, Jean, il prend un grand soin de nous détailler que Jésus avait tout compris. Il avait tout compris. Il savait que c'était la fin de la route sur terre, là. Il savait qu'il allait avoir la croix. Il savait qu'il est de nature divine, il vient de Dieu. Il savait qu'il allait retourner auprès de Dieu après la croix. Il savait que Dieu avait tout remis entre ses mains, qu'il était plénipotentiaire. Il avait la puissance divine entre les mains, quoi. Il réveille un mort, il change l'eau en vin, il ouvre la mer, il marche dessus, il calme le vent, il fait ce qu'il veut. Il savait ça. Il savait que Judas allait trahir. Ce n'est pas dit dans le texte, mais je suppose qu'il savait que ses disciples allaient le déserter, les 11 autres, se tenir à distance au mieux. Il savait, d'accord? Et c'est important parce que ça jette en lumière la scène qui va se passer là. Quand il va se dévêtir, quand il va se mettre une serviette autour de la taille, se mettre à laver les pieds de ses disciples, etc., il le fait en toute connaissance de qui il est et de qui ils sont, de ce qu'ils vont faire, de ce qui va se passer. Et là, ça donne de la puissance à la scène. Il leur lave les pieds pour leur dire son amour. Donc, on s'imagine, il y a Jésus, torse nu, qui lave les pieds de ses disciples. Et en fait, celui qu'on regarde là, c'est Dieu. D'accord, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu fait homme. Et Dieu le Père, là-haut, il voit son fils, torse nu, à genoux devant les disciples, qui lave les pieds des disciples dans cette bassine d'eau, là, qui commence à être un peu marron. Et il dit quoi? Je suis fier. Tu fais l'objet de tout mon plaisir. Bravo, tu me représentes, tu brilles de ma lumière devant les hommes. Voilà ce qu'il dit. Wow. Il lave leurs pieds avec dévotion, complètement impliqué à sa tâche. Il n'a pas le sourcil, le nez froncé, comme si ça sentait mauvais. Il n'exprime pas de dégoût, de répugnance. Il est heureux de vivre ce moment. Il n'agit pas plus par devoir que que par affection sincère pour chacun d'entre eux. Ils ressentent cette affection. Ils ressentent qu'il n'est pas pressé de passer au pied suivant ou d'en finir. Ils sont sans doute tous dans un silence interdit. En tout cas, moi, je le serais. Et ils ressentent la douceur de ce chef. Il y a Judas qui a déjà prévu de trahir, de livrer Jésus, d'offrir au Sanhédrin cette occasion qu'il cherchait de pouvoir choper Jésus sans la foule. Jésus le sait. Et Judas aura quand même les pieds propres. Persévérance jusqu'au bout. Il recevra lui aussi cette marque d'affection intime et dévouée de la part du Messie. Lui, le traître. Eux, les 11 autres qui s'écarteront du maître pour ne pas plonger avec lui dans la parodie de procès, dans la mort honteuse qu'il va subir. Il les aime tous jusqu'au bout et il sait très bien qui ils sont. Il sait très bien qui ils sont. Il les purifie par l'eau pour qu'ils comprennent le règne des cieux et qu'un jour, quand ils comprendront ce règne des cieux, ils seront purifiés jusque dans leur cœur. Il faut contempler ce Jésus-là. Il faut méditer sur ce qu'il fait en ayant bien en tête qu'il a tout compris et que Dieu le Père dit « Comme tu me reflètes bien, comme tu me ressembles bien, comme tu montres bien aux hommes qui je suis. » C'est pas facile, hein ? Enfin, moi, je trouve ça pas facile. Le roi serviteur, le Dieu homme, qui incarne vraiment Dieu pour son peuple. Il est celui que Dieu a choisi pour son peuple, qui ne criera pas, qui ne brisera pas le roseau, qui n'éteindra pas la flamme, qui ramènera les aveugles à la lumière et les délivrera les captifs. Il est beau, ce Seigneur, il est beau. Il est beau, il est... sa douceur n'est pas feinte, il ne fait pas semblant, il est réellement un chef comme ça. Merci, merci Dieu de ne pas être un tyran. Tu es le meilleur. Maintenant, j'ai une question pour vous. Ce Jésus qui est doux, persévérant jusqu'à la fin, qui ne lâche pas le morceau, qui ne se lasse jamais face aux difficultés, qui veut-il avoir dans son Église ? Qui veut-il voir intégré à son équipe, à son peuple, à son règne ? Est-ce qu'il veut voir ce qui donne plein d'argent à l'Église ? Est-ce qu'il veut le voir ceux qui connaissent la Bible par cœur ? Est-ce qu'il veut voir ceux qui ne pêchent jamais ? Les durs, les balèzes, qui ont peur de rien. Pour quel genre de peuple Dieu a-t-il choisi, Dieu a-t-il pris plaisir à envoyer un roi doux, persévérant à l'extrême, incorruptible par le mal ? Pour l'élite ? Pour des super spirituels ? Des pasteurs ? Non, je blague. Pour ceux qui viennent de dynasties chrétiennes multiséculaires, auprès de qui est-ce qu'on envoie un super doux, un super patient et un super droit ? On l'envoie vers des cas désespérés. On l'envoie vers ceux qui galèrent. On l'envoie vers ceux qui ne s'en sortent pas tout seuls, qui ont beaucoup besoin d'aide. On l'envoie vers les vies brisées. On l'envoie vers les vies meurtries par l'existence. On l'envoie vers ceux qui ont des parcours chaotiques et qui ne trouvent plus le chemin. On l'envoie vers ceux qui sont addicts, vers ceux qui sont captifs, vers les prisonniers enchaînés de leur situation, ceux qui ont besoin d'une thérapie, de soins, d'accompagnement, de guérison. On l'envoie vers ceux qui coulent leur couple, qui coulent leur famille. On l'envoie vers ceux qui ont toujours peur de grandir, même quand ils sont vieux, vers ceux qui se croient victimes et responsables de rien, vers ceux qui ont de l'orgueil à un point que ça les aveugle sur eux-mêmes et qui sont captifs encore de cette situation. On leur voit vers ceux qui croient tout savoir et qui ont besoin d'être mis à leur place. Je continue la liste. Jésus, c'est le roi super doux, super patient, super juste de cette communauté chrétienne. Dieu nous a donné Jésus parce que nous avons besoin d'être aimés, d'être soignés, d'être conduits par un chef comme lui. Nous avons besoin d'un amour inconditionnel, incassable, inlassable. Et l'Église du Christ, la vraie, elle est remplie de gens qui savent profondément avoir besoin d'un Seigneur comme lui. Alors si vous, dans votre cœur, vous dites, mais oui, un chef doux, un chef que je n'arriverai pas à lasser, qui ne se découragera jamais de moi, et en même temps un chef d'une justice qui va toujours me ramener sur le droit chemin, c'est ce dont j'ai besoin, moi, jusqu'au bout de ma vie. Alors vous êtes dans la bonne église. Il arrive cependant que nous trouvions parfois dans l'église de Jésus des gens qui ont beaucoup d'amis, beaucoup de proches, qui ont plus besoin de Jésus qu'eux-mêmes. Moi, je connais quelqu'un qui a besoin de Jésus. Oui. Oh, moi, je connais quelqu'un qui a besoin de ce verset. Moi, je... Mais pas trop à vos verres, peut-être. Qui est-ce que Jésus veut avoir dans son église? C'est vous, c'est moi. Il est l'envoyé spécial des cas comme nous, ceux qui retombent, de ceux qui persévèrent dans la mauvaise direction en sachant que c'est la mauvaise direction, de ceux qui n'arrivent pas à lâcher ce petit plus de confort pour pratiquer ce petit plus de justice sur terre. Il est super compétent pour conduire les cas comme les nôtres vers son royaume. Car le royaume qui vient, il est fait pour les gens comme nous, quand ils seront guéris, consolés, restaurés, justifiés, pardonnés, adoptés, aimés. Mais il y a un petit ticket d'entrée, un truc à faire, un rituel de passage. Il faut se laisser aimer par Jésus, à sa façon. Il faut accepter de découvrir son amour pour nous. C'est bizarre la façon dont il aime. Il faut être honnête entre nous. Il nous accompagne dans toutes les épreuves, dans tous les brasiers, dans toutes les fosses et dans toutes les tempêtes. Mais parfois, on est là, on se dit, mais s'il est avec moi, pourquoi les vagues sont aussi grosses? S'il est à la fournaise avec moi, pourquoi la température ne baisse pas? S'il est avec moi dans les ténèbres, pourquoi est-ce que j'y vois pas plus clair? Peut-être que vous avez vécu des choses comme ça. Et pourtant, sondez, testez, éprouvez, vous verrez, il est là. Il est là Même si je ne comprends pas parfois, mais il ne fait pas plus. Pourquoi des fois j'ai le sentiment qu'il brille par son inaction. Mais c'est mon sentiment. Il est là pourtant. Et il m'aime. Il m'accompagne. Il vous accompagne jusqu'à votre mort ou jusqu'à son retour. Il vous accompagne et il est inlassable, incorruptible et doux. Alors, on peut vivre ce temps à exiger que Jésus nous aime comme on veut être aimé. Je n'ai que 40 ans, mais en tout cas, dans le couple, ça ne marche pas. Dans la famille, ça ne marche pas bien non plus. Je doute qu'avec Jésus, ça marche. Vous pouvez vous laisser aimer de son amour farouche et un peu sauvage. Goûter, apprendre, découvrir les effets étranges de sa présence constante. Je vous le promets, si vous faites ça, il y aura des changements. Il y aura des consolations, des guérisons, de la paix, de la joie, une grande espérance. Notre roi est doux, il est humble de cœur, il ne brise pas, il n'arrache pas, il n'éteint pas, il a une persévérance que vous ne pourrez pas lasser. Je vous en conjure, laissez-vous aimer. Venez à lui, tombez le masque. Laissez fondre les fausses prétentions et les excuses bidons pour devenir libre face à lui. Et après, nous nous retrouverons tous libres les uns face aux autres pour l'éternité. Amen.